qui vient dîner. Michel Durand-Vallon.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, ça commence comme ça. Correspondait-il au profil désiré ? Possédait-il les aptitudes psychologiques indispensables ? Encore et toujours trouver de l'embauche, une place, sa place même, qui sait ? Creuser son trou dans l'existence. Ce n'était pas la première fois qu'il vivait une expérience de ce genre. Il avait perdu en chemin la foi qui renverse les montagnes, mais il avait conservé sa volonté de s'enfoncer aussi profondément que possible dans le monde en quête des autres et de lui-même. De toute manière, il fallait bien manger, se vêtir et se loger. Cela ne se discute pas. La nouveauté, c'est qu'il avait aujourd'hui l'impression de vivre le présent en référence à son passé. Et même si tout se passait exactement de la même manière qu'autrefois, à quelques détails près, le simple fait de se rappeler chaque instant de ce passé conférait au moment présent une texture nouvelle. Il n'était plus le même puisqu'il gardait en mémoire le souvenir d'un moment identique, un moment qui se reproduit à des années de distance, ne peut être un clone chronologique puisqu'il s'enrichit du souvenir et donc de l'expérience, du moment semblable qui l'a précédé. Il descendit à la dernière station du métro. Bien qu'il eût un peu changé, ce lieu n'avait rien de nouveau pour lui, il le connaissait, mais pas au point de s'enfoncer dans la gorge, comme ça, sans demander son chemin. « Gorge en grue » cria-t-il, les mains en porte-voix en direction d'un agriculteur qui descendait les marches de son gros tracteur. À longues enjambées, tapant bientôt ses bottes terreuses sur le trottoir, il s'approcha avec une sorte de saine impatience, comme s'il était heureux de voir enfin quelqu'un. « Gorge en grue !» dit à son tour l'agriculteur en écartant largement les bras, comme s'il annonçait la terre promise. « La compagnie ?» demanda le candidat. À ce moment-là retentit une sonnette. Monsieur Karl fit inconsciemment le geste d'ouvrir la porte, mais ce n'était que le téléphone portable de l'agriculteur. « Allô ?» dit-il en abaissant l'index à l'articulation afin de désigner les profondeurs de la gorge. Puis il se retourna, fit un signe de salut et repartit vers son lourd véhicule. « Voilà un homme au clair sur son devoir », se dit Monsieur Karl avec un brin d'envie. Allait-il vraiment plonger dans cette gorge saturée de brume ? Y avait-il un avenir à sa mesure au fond de ce sombre trou ? Mais avait-il un autre choix que de se précipiter partout où un emploi semblait lui être promis. Ça continue, évidemment. Hein. Et bien sûr que ça continue. Et à partir de là, moi, j'ai plus eu envie d'arrêter, comme quoi il y a un art du commencement. C'est quand on écoute les spécialistes de la chose littéraire, il conviendrait de s'extasier sur le fameux « longtemps, je me suis couché de bonheur ». J'ai jamais compris pourquoi il fallait s'extasier sur cette phrase. Voilà, c'est Proust, évidemment. Commencer un livre, c'est comme choisir un vêtement pour un premier rendez-vous amoureux. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas décevoir et d'emporter immédiatement le regard de l'autre. Alors je suppose que Proust avait du talent, c'est ce qu'on dit en tout cas, mais je préfère de loin la manière de Jean-Bernard Vuillem. Tenez, écoutez cette phrase de début aussi. « J'ai marché sur un œil de vache. Je m'en rappelle fort bien comme si c'était hier. Un tel faux pas vous laisse une impression indélébile. » Et on a encore une fois qu'une seule envie, c'est de continuer. Bonsoir Jean-Bernard Vuillem.
Bonsoir.
C'est difficile les débuts ou ça vous est totalement naturel ?
C'est une vague qu'il faut voir passer, il faut monter dessus, il faut la faire rouler.
Elle arrive et vous la prenez.
Elle arrive mentalement, c'est-à-dire c'est ce qui vous entraîne
vers la suite.
Qui vous entraîne vers la suite.
Ça entraîne aussi bien le lecteur que l'auteur.
En principe,
finalement,
une vague vous entraîne vers le rivage, mais oui, là, c'est peut-être une vague qui vous emmène plutôt vers le large.
C'est une vague de ressac.
Voilà, c'est une vague de ressac, exactement.
De reflux. La première lecture, un petit peu longue, je m'en excuse, mais enfin, peu importe, elle était extraite de votre dernier roman. Monsieur Karl and Company, on dit ? Vous diriez comme ça, vous ? Parce qu'il y a écrit et...
Oui, c'est le et...
Et le et de...
Non, moi je le dis en français, et compagnie.
Et compagnie.
Oui, oui.
Mmh. Ah oui.
Mais Monsieur on peut Karl le dire en anglais.
And pas, company. Et compagnie.
Mr. Karl. Mr. Mister, Karl. Hein.
Non, Herr Karl.
Ah, Herr Karl.
Herr Karl.
Vous avez dit, j'ai vu que vous avez... C'est très beau d'ailleurs. Vous avez présenté un mot qui est clairement pour moi d'origine germanique, Gorgengrut.
Ah, gorge en grutte.
Gorge en grutte, vous avez dit.
Gorge en grutte.
À la française.
Oui,
c'est vrai que moi, je l'entends. Bon, en Suisse, évidemment, très près des langues allemandes. Donc, je voyais dans ce gorge en grutte.
Mais ça existe, là?
Non, c'est un mot inventé.
Ah, moi, je voyais une gorge en grutte.
Ah, ben oui, c'est pas mal. Ouais,
chacun son truc, hein. C'est freudien, lacanien, comme on voudra, mais voilà. Donc, première lecture de ce roman, il n'est pas encore paru, vous en réservez la parution pour le Salon du Livre. Et puis, quant au second extrait, il était tiré d'un livre au titre des plus provoquants, un livre que je trouve merveilleux, « Meilleure pensée des abattoirs ». Donc, de fait, vous marchâtes au printemps 61 sur un œil de bœuf, en vrai.
Autant que je m'en souvienne, oui.
Vous l'avez fabriqué, souvenir, vous croyez ?
Non, je ne l'ai pas fabriqué, ou alors je l'ai fabriqué parce que je suis allé dans ce lieu, tout ce qui est exprimé dans le ressenti d'un enfant qui traverse le lieu et qui n'a pas les capacités intellectuelles d'analyser, de serrer ce qu'il voit, il envahit.
Dans l'émotion,
il envahit dans l'image, par les sensations, par les images. Je sens, comme je le décris, encore cet œil sous ma semelle. Maintenant...
parfois, c'est votre invité qui va tourner de l'œil, arrêtez.
Oui, le dit. Non, mais parfois, évidemment, on est emporté par l'imagination et on croit parfois, c'est possible, c'est des questions qu'il peut y avoir sur la mémoire quand on vit quelque chose de très fort et qu'on le raconte aux gens, on est parfois dans la vérité en exagérant.
Qu'est-ce qu'on raconte en fait de soi, quoi.
On raconte ce qu'on veut, ce qu'on a éprouvé et comment on craint peut-être de. Qu'un simple compte-rendu factuel de la réalité ne fasse pas éprouver la violence, l'intensité de ce qu'on a pu éprouver, peut-être que parfois, inconsciemment, on en rajoute un peu.
Alors là, surtout un écrivain de votre trempe. Doit-on faire confiance à la mémoire d'un écrivain ?
Non, mais parfois c'est très clair, parfois c'est très clair où on est d'un peu, où moi je sais que je suis dans une invention ou dans une extrapolation d'une sensation vécue. Là, très honnêtement, je pense l'avoir vécu, mais j'en mettrai pas ma main au feu, quoi.
Meilleure pensée des abattoirs, je vous ne cache pas que c'est ce petit livre admirable, décapant les absurdes frémissements que nous avons face à l'animal, qui m'a donné l'envie de vous inviter. Vous êtes né à Neuchâtel, et vous avez vécu une partie de votre enfance à la Chaux-de-Fonds, non loin des abattoirs de la ville, d'ailleurs. Donc, lointaine et ancienne interrogation sur cet univers du dépeçage. J'aime bien ce mot-là aussi, vous concernant. Le dépeçage. Jean-Bernard Villem, vous êtes écrivain, on l'aura compris, récompensé par le prix Schiller pour l'ensemble de votre œuvre, Vive la Suisse, par le prix d'Antan, prestigieux et exigeant, Revive la Suisse littéraire, une quinzaine de livres entre romans ou essais, et avant que nous parlions, sinon des 15 ouvrages, parce que je ne les ai pas tous lus, mais enfin, de certains des thèmes qui les traversent, j'aimerais que vous nous présentiez votre invité.
Oui, je suis venu avec mon éditrice depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, mais je me suis posé la question quand même quand il y a l'invitation. C'est vrai qu'on part dans un voyage. Et puis je suis quand même assez vite arrivé à mon éditrice parce que c'est, je peux dire, un compagnon d'écriture dans ce long voyage qu'est écrire. Qui demande une volonté, un engagement, une fermeté. Je pense que s'il n'y a pas ce compagnonnage de l'éditeur, qui est à la fois quelqu'un qui est amoureux de vos livres, de ce que vous écrivez, mais qui l'est d'une telle sorte qu'elle est capable aussi de vous amener un regard critique, d'ailleurs parfois impitoyable.
Qui aime bien, j'habille bien, comme on dit.
Mais voilà, et dont, en tout cas personnellement, en vrai, j'ai totalement besoin. C'est-à-dire que je ne suis pas un auteur qui ne se remet pas en question. Il y a des choses sur lesquelles je sais que ça, je vais jamais toucher. Mais je trouve nécessaire, à un moment donné, alors ce regard, il est difficile à trouver. Parce qu'il est soit de quelqu'un qui, avec lequel vous êtes en concurrence et qui va peut-être vous dire des amabilités pas forcément très sincères. Donc... voilà, Marlise est pour moi quand même depuis nombreuses années, pas le seul, mais quand même le regard essentiel sur mes livres. Puis alors à part ça, à part le regard, la personne qui rend le livre possible,
ce qui est l'objet lui-même. Et sa diffusion.
Sa diffusion. Voilà, c'est donc dans mon parcours d'écriture comme opin, Marlies Pietri est un personnage essentiel, comme pour beaucoup d'ailleurs d'auteurs, je suis bien sûr de loin pas le seul. C'est peut-être aussi l'occasion de lui rendre un hommage, quoi, pour le rôle qu'elle a tenu dans ce pays quand même qui n'a pas une sensibilité extraordinaire à la littérature, où il faut une endurance formidable.
C'est pas tout à fait ça. Moi, je pense qu'il y a des lecteurs et des lecteurs formidablement fins et intelligents de la littérature. Mais le problème est probablement ailleurs. C'est dans la fierté qu'on peut avoir de ces auteurs et de ces créateurs qu'il y a un problème en Suisse.
C'est un problème suisse peut-être fondamental qui touche fierté. À la littérature, les arts en général et peut-être même d'autres, dans d'autres domaines. Hein. Il y a une espèce de discrétion suisse qui fait que ce pays peut aussi peut en tirer certains avantages, quoi. Ça donne aussi un charme, la discrétion, à une époque où,
c'est la neutralité,
où tout le monde bombe le torse.
Être neutre, vous savez.
Ouais, bon, neutre, ça c'est un peu. Ouais, bon,
neutre, c'est vertu admirable de la neutralité.
Ben, c'est dangereux, évidemment, quand ça s'étend au cœur des êtres, quoi, évidemment.
Marlies Pietri, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai écrit ancienne directrice. Le mot ancienne n'est pas vraiment justifié parce que ça fait très très peu de temps que vous êtes ancienne directrice des éditions
vous
Zoé.
Vous pouvez dire fondatrice.
Bah, surtout fondatrice.
Et puis, maintenant, conseillère, n'est-ce pas ? C'est plus simple.
Fondatrice des éditions Zoé. Très peu de temps que vous êtes retirée, donc. Vous avez quitté le poste de direction.
Voilà.
Voilà. Que vous avez confié à Caroline Couteau.
Exactement.
Mais on ne va pas trop en parler parce que nous recevrons, enfin, ce n'est pas moi qui. L'émission recevra Caroline Couteau. Et elle vous a choisi comme invitée. Marlies Pietri, évidemment. Mais c'est Marc Jouz qui sera là, dans ce fauteuil, à ma place. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux, autour de quel texte, peut-être, Marlies Pietri ?
Avec Jean-Bernard Vuillem. Écoutez, il était avec son éditeur, il se promenait à Francfort. Moi, j'étais au Salon du Livre de Francfort, et je voyais cet éditeur qui était assez corpulent, hein. Il était d'ici, de Lausanne, et ils étaient les deux sans arrêt, ils buvaient. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là ? Et pourquoi il y a cette relation et pourquoi il y en a un qui est tout le temps... ils étaient comme une paire. Et, en même temps, je n'entendais pas beaucoup parler des livres. Mais c'était extrêmement intriguant. Surtout que Jean-Bernard Vuillem ne parlait pas beaucoup.
Mais vous ne le connaissiez pas ?
Je ne le connaissais absolument pas. Et c'était l'éditeur qui le prenait en charge, enfin comme sous son aile, on aurait dit. Et je me suis demandé ce qui se tramait là-dessous. Quelques temps après, cet éditeur a arrêté et j'ai été enchantée de recevoir un manuscrit. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de cette fameuse rencontre et s'il s'en souvient. Mais en tout cas, c'était à Francfort et c'était assez étonnant. Et en fait, je n'étais pas contente de voir quelqu'un qui me paraissait aussi... Non, mais moi, je n'avais pas encore lu, donc je ne peux pas encore dire que je n'étais pas très contente. Voilà. Donc,
ça vous paraissait curieux comme rapport, en fait.
C'était assez étonnant.
Entre un éditeur et son auteur. Jean-Bernard Vuillem, vous vous souvenez de cet épisode ?
Oui, je me rappelle, bien sûr, je me souviens d'avoir été à France, il y avait de nombreuses années, hein, ça. Effectivement, j'étais avec mon éditeur de l'époque qui a disparu du champ, quoi, qui n'existe plus. J'étais très jeune. Effectivement, c'était un personnage, disons... avait des côtés très sympathiques, assez encombrant, mais c'est vrai que peut-être, c'est pas pour rien qu'il n'est pas resté non plus longtemps, c'est que la littérature n'était peut-être pas son souci essentiel, ce que je voyais. Bon, ben moi, j'étais un jeune auteur, il promettait beaucoup, il avait vendu, je crois, mais je ne veux pas en parler avec irrespect
non,
du tout,
non,
parce
non,
que
il
avait vendu un livre sur les champignons, Les quatre saisons des champignons, je me rappelle quand même assez bien, qui avait été un succès considérable, parce que certainement c'était un outil fort intelligent et bien fait pour les... puis qui peut-être allait un peu plus loin. Et peut-être pensait-il que vendait la littérature comme des champignons, si je puis dire. Voilà, et puis... mais il y a de nombreux éditeurs qui ont fait faillite, qui n'ont pas tenu, et c'est certainement que... Mais évidemment, l'image de Marlies, c'est vrai, elle me renvoie une image qui est très lointaine. Je ne sais pas qu'en fait, certainement que sa mémoire ne la trahit pas.
Oui, mais la deuxième, on parlera donc de la deuxième rencontre, puisque la première est un peu anonyme et lointaine. La deuxième rencontre, c'est autour d'un texte.
Oui, Mais je veux encore dire sur la première que le salon de Francfort, la foire de Francfort, c'était vraiment un endroit très curieux. Il y avait les éditeurs du monde entier. Mm-hmm. Il n'y avait que les auteurs très, très célèbres qui étaient. Alors, cette paire de la Suisse romande, là où on ne vendait que des droits ouais. et où il n'y avait normalement ouais, pas d'auteur, c'était du plus haut comique. C'était un petit peu exotique. Mais Jean-Bernard n'avait pas du tout l'air mal à l'aise. Voilà, il suivait. Et je crois que là, il est un peu comme ces personnages aussi. Il se laisse faire, il se laisse conduire. Hein, et puis, il observe de façon...